Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
À la une de l'actualité de ce samedi 22 janvier, l'arrivée en Australie de plus en plus facilitée. À partir de demain, un simple test rapide antigénique négatif suffira pour passer les frontières. La mise en application du pass vaccinal en France, le Conseil constitutionnel donne son feu vert. 15 000 visas pour les Afghans qui ont fui le pays après la prise de pouvoir des talibans. Le gouvernement se félicite, ce n'est pas assez, dénonce l'opposition. Et enfin, l'Open d'Australie, Benoît Paire joue sa place en 8e de finale cet après-midi. Tous les détails dans le Journal des Sports. Un pas de plus vers le retour à une vie normale, une vie non exclusivement dictée par l'épidémie de Covid-19. À partir de demain, les voyageurs internationaux arrivant en Australie pourront choisir de réaliser un test rapide antigénique avant de décoller plutôt qu'un test PCR. Le ministre de la Santé, Greg Hunt, précise dans un communiqué que le PCR reste le test de référence, mais qu'un test rapide de moins de 24 heures est désormais acceptable. Autre bonne nouvelle, les voyageurs testés positifs pourront sortir d'isolement après 7 jours et non plus 14. Dans le Western Australia, le Premier ministre Mark McGowan s'est attiré les foudres jeudi soir en annonçant retarder l'ouverture des frontières de son État. Le Western Australia devait ouvrir au reste du pays le 5 février, ça ne sera pas le cas. Une décision irresponsable selon le Premier qui porte la faute sur Omicron. Pour Mark McGowan, davantage de personnes doivent d'abord se faire vacciner avant que son État puisse envisager une réouverture.
It gives them the opportunity to get vaccinated and gives them the opportunity to protect the health of themselves and their loved ones. When we made the announcement in December, I said, and I was very clear about this, that it would open on February 5 unless there was an emergency or a catastrophe. Now, what's going on in the eastern states is both an emergency and a catastrophe.
Alors, si l'on fait un point rapide sur le virus en Australie, le nombre de cas est toujours relativement élevé, plus de 20 000 nouveaux cas en Nouvelle-Galles du Sud. Mais après 2 jours de baisse consécutive, le nombre d'hospitalisations est reparti à la hausse hier, 2762 patients. Et le nombre de personnes en soins intensifs, lui, est en légère baisse, de quoi rassurer le Premier ministre du New South Wales, Dominique Perrottet.
C'est très plaisant et réassurant de voir. That we are operating within capacity on our best case scenario. And that's incredibly pleasing. And the key to that success has been the vaccination program in our state. We made that change recently in respect of bringing forward the period of time from your second dose vaccination to your booster shot from 4 months to 3 months. That means that there are many people now eligible right across our state to receive that booster shot.
Dans le Victoria, on dénombre un peu plus de 16 000 nouveaux cas. Le gouvernement appelle d'ailleurs les enseignants retraités à venir prêter main forte à l'approche de la rentrée, puisque comme partout, des milliers de professeurs ne pourront pas assurer leur classe, soit parce qu'ils sont cas contact, soit parce qu'ils sont positifs. Toujours sur le front de l'épidémie de coronavirus, eh bien l'Angleterre a annoncé la fin des restrictions sanitaires, malgré le nombre de cas qui ne faiblit pas. À partir du 27 janvier, fini le port du masque, le télétravail obligatoire ou encore le pass sanitaire. Boris Johnson a décidé de traiter le coronavirus comme une maladie endémique et non plus épidémique, traiter le coronavirus comme si c'était une grippe. Le Premier ministre britannique va même plus loin. À partir de la mi-mars, les personnes positives n'auront plus besoin de s'isoler. Une logique à contre-courant que vient expliquer ce virologue à l'université de Leicester, le docteur Julian Tang.
The cases per 100,000 with flu versus COVID cases which are not due to admissions for something else are about the same. And if you look at the ICU figures, they're about the same for flu back in 2018-2019 compared to now for Omicron. So we're in the same kind of position as we are with flu in previous years.
En France, certaines restrictions aussi sont sur le point d'être levées. Les discothèques et les concerts debout vont être autorisés à partir de mi-février. Le port du masque en extérieur et le télétravail ne seront bientôt plus obligatoires non plus. Pourtant, le nombre de cas est toujours de plusieurs centaines de milliers par jour et près de 19 000 classes sont actuellement fermées à cause des cas de Covid. Parmi les élèves ou les professeurs, c'est un record. Mais c'est dans ce contexte que le Conseil constitutionnel a tranché. Il dit oui au pass vaccinal, le pass vaccinal qui va donc bel et bien remplacer le pass sanitaire dès lundi, malgré les controverses. Le dispositif imaginé par le gouvernement a été validé presque dans son intégralité. Marine de la Moissonnière pour RFI.
Même si certaines dispositions portent atteinte à plusieurs libertés fondamentales, l'objectif de protection de la santé justifie la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Voilà comment le Conseil constitutionnel explique sa décision, d'autant que ce texte n'est pas, selon lui, synonyme d'une obligation de vaccination déguisée. Même la possibilité laissée aux responsables de bars et de restaurants et aux gérants de cinéma et de théâtre de vérifier l'identité de leurs clients ne pose pas de problème aux sages qui n'y voient pas un contrôle de police administrative. Un bémol, toutefois, les meetings politiques. Pas question pour les organisateurs d'exiger des participants un pass sanitaire, mais ils pourront prendre toutes les mesures utiles, comme limiter le nombre de personnes présentes, distribuer des masques ou aérer les salles. Le Conseil constitutionnel demande par ailleurs qu'il soit mis fin au pass vaccinal dès que la situation sanitaire se sera améliorée, sans toutefois fixer d'indicateurs chiffrés. Le projet de loi prévoit, lui, une application possible jusqu'au 31 juillet.
On reste en France et un an de prison dont 8 fermes, nouvelle condamnation pour Claude Guéant dans l'affaire des sondages de l'Élysée. L'ex-secrétaire général de la présidence sous Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable de favoritisme. Il était jugé aux côtés de 4 autres ex-proches de Nicolas Sarkozy, mais il n'était pas présent lui-même pour entendre la décision. Laura Martel, RFI.
Incarcéré dans une autre affaire, Claude Guéant s'était fait représenter par son avocat. Dans ce dossier, qui remonte à la présidence de Nicolas Sarkozy, l'ex-secrétaire général de l'Élysée et Emmanuelle Mignon, directrice de cabinet à l'époque, étaient jugés pour avoir commandé entre 2007 et 2012 des millions d'euros de sondages à la société de Patrick Buisson, alors proche conseiller du président, à celle de Pierre Giacometti, ex-sondeur, ainsi qu'à l'Institut Ipsos. Et ce, sans publicité ni appel d'offres, du favoritisme a tranché la cour. Claude Guéant ne pouvait ignorer les règles des commandes publiques, eu égard à ses fonctions passées, a souligné le président qui a fustigé les prévenus pour avoir jeté le discrédit sur la présidence de la République française. Claude Guéant a donc été condamné à un an de prison, dont 8 mois fermes qui ne pourront faire l'objet d'un aménagement de peine, a précisé la cour. L'ex-conseiller présidentiel Patrick Buisson, reconnu coupable de détournement de fonds publics à hauteur d'1,4 million d'euros, a lui écopé de 2 ans avec sursis et 150 000 euros d'amende. Emmanuelle Mignon et Pierre Giacometti de 6 mois avec sursis. Le cinquième prévenu a été relaxé. Nicolas Sarkozy, bénéficiant de l'immunité présidentielle, n'était pas impliqué dans ce dossier, mais le tribunal lui avait imposé de comparaître comme témoin. Il avait alors gardé le silence, invoquant le principe de séparation des pouvoirs.
L'avocat de Claude Guéant a indiqué faire appel de cette condamnation. On le rappelle donc, 1 an de prison, 8 mois ferme pour Claude Guéant pour favoritisme. Politique française toujours, et alors que l'élection présidentielle se rapproche, 2 anciens ennemis jurés au sein de la droite, eux aussi, se rapprochent. La candidate victorieuse de la primaire, Valérie Pécresse, organise le rassemblement de sa famille politique. Elle se déplace avec chacun des ténors du parti dans leur fief. Son dernier déplacement, c'était en Haute-Loire, sur les terres de Laurent Wauquiez, le patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes et ancien chef du parti LR. Reportage au Puy-en-Velay, Lucille Jambert.
Réconcilier Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez.
Pour moi, c'était important de l'accueillir chez moi, en Haute-Loire, dans notre région. C'est le symbole de mon soutien et de mon engagement total aux côtés de Valérie.
Il la joue collectif et elle balaye les questions des journalistes sur leurs hostilités et différents idéologiques d'hier.
Je sais que ça vous dérange que la droite soit de retour, et je sais que ça vous dérange peut-être aussi qu'elle soit totalement unie, mais on va gagner ensemble.
Comme pour dissiper les doutes sur le soutien que le patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes apportera effectivement à sa campagne.
Aujourd'hui, simplement, ce qui nous manque à la maison de santé du Niers, c'est une sage-femme.
Quelques échanges avec les soignants d'une maison de santé rurale, puis un tour dans la cathédrale du Puy-en-Velay, point de départ des pèlerins chrétiens vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
C'est magnifique.
La presse est tenue à distance. Des images, oui, mais pas de questions. Et quand, devant quelques centaines de ses sympathisants, Laurent Wauquiez réitère son soutien, il réaffirme aussi sa ligne.
Des convictions claires, fermes sur le régalien, portant la fierté de notre identité, le courage aussi sur la revalorisation du travail, la baisse de la dépense publique. Il y a une profonde convergence de vues entre nous tous qui s'est reconstruite à l'occasion de ces primaires.
Et peut-être d'autres rapprochements politiques à venir. L'eurodéputé du Rassemblement national Gilbert Collard devrait rallier Éric Zemmour. L'annonce est prévue ce week-end à Cannes. Éric Zemmour, candidat d'extrême droite, qui s'est rendu ce vendredi dans le sud-est de la France, à la frontière avec l'Italie, où il a déclaré vouloir établir le renvoi des migrants illégaux par charter et supprimer le droit du sol. Éric Zemmour qui a eu droit à un comité d'accueil d'opposants à Menton, la correspondance de Julien Chavanne.
Éric Zemmour avait dû écourter son déplacement à Calais mercredi face à une trentaine de manifestants. Ils étaient une petite centaine à l'attendre ce vendredi au poste frontière de Menton, près de Nice. Des étudiants de l'antenne locale de Sciences Po, pacifiques, armés seulement de quelques pancartes. Parmi eux, Mariem.
Je suis franco-tunisienne. Je suis pour la France que j'ai connue et que j'ai appréciée. C'est-à-dire une France qui partageait des valeurs que je connais et que je comprends. Et ce n'est pas les valeurs que partage M. Éric Zemmour.
Cédric Héroux, l'agriculteur devenu connu pour son aide aux migrants, était là aussi. Un ennemi de la République, juge Éric Zemmour, qui s'attaque aux associations.
Je pense que ces gens sont des gens qui agissent contre la France. Je considère qu'ils sont des ennemis de la France. Donc ils seront traités comme des ennemis. Il n'y aura plus simplement de subventions qui leur seront versées. Je les sanctionne judiciairement.
Et il faut quoi ? Il faut des amendes, de la prison ?
Mais oui, absolument.
De la prison.
Plus de subventions et de la prison pour les associations d'aide aux migrants. Toujours plus à droite, toujours plus radical, disent ses soutiens.
Retour en Australie et le gouvernement fédéral va fournir au moins 15 000 visas aux ressortissants afghans qui ont fui leur pays après la prise de pouvoir des talibans en août dernier. D'une certaine façon, l'Australie essaye de se racheter après la publication d'un rapport parlementaire mettant en lumière toutes les failles du retrait des troupes australiennes d'Afghanistan. Un rapport qui accuse l'Australie d'avoir abandonné les Afghans à leur propre sort. Le ministre de l'immigration Alex Hawke a tenu à assurer dans un communiqué de l'engagement de l'Australie envers le peuple afghan. Mais du côté des Verts, on craint que le nombre de visas accordés ne soit pas suffisant. Pour leur porte-parole pour l'immigration et la citoyenneté, le sénateur Nick McKim, le gouvernement fédéral ne va pas assez loin.
What the government should be doing is creating an extra 20,000 places to protect people from Afghanistan in addition to our annual humanitarian intake, not as part of our annual humanitarian intake. And that would mean that we could look after enough people from Afghanistan to meet our moral obligation, but also continue to offer protection to people who desperately need it from other parts of the world.
Les îles Tonga, toujours dévastées et coupées du monde après la terrible catastrophe naturelle la semaine dernière. Plus de 80 000 personnes, dont au moins 28 000 enfants, sont impactées. C'est plus de 80% de toute la population sur place. Les avions de secours ont commencé à arriver au compte-gouttes, mais le gouvernement supplie la population à utiliser l'eau avec parcimonie. La pénurie n'est pas loin, l'eau potable ayant été contaminée après l'éruption volcanique.
A very serious problem now is the dust from the volcano. The government is issuing a warning for the people to stay inside their house, make sure that they have the proper mask, and make sure that they don't have to waste the water, because it seems like that we're gonna run out of water very soon.
Un coup d'œil à votre météo du jour. Perth et le Western Australia toujours acculés par la chaleur. Il fait au moins 40 degrés à l'ombre. Faites très attention, surveillez bien les personnes vulnérables et les animaux. À Adélaïde, nuageux, il fait 33 degrés. Du soleil à Melbourne, 33 degrés également. En Tasmanie, à Hobart précisément, 25 degrés. Du soleil et comptez 26 degrés à Canberra. De la pluie et 26 à Sydney. Même météo à Brisbane, comptez 28 degrés. 31 à Cairns et enfin risque de tempête, 32 degrés à Darwin. Le rappel des principaux titres de l'actualité. L'arrivée en Australie de plus en plus facilitée. À partir de demain, un simple test rapide antigénique négatif suffira pour passer les frontières. La mise en application du pass vaccinal en France. Le Conseil constitutionnel donne son feu vert. Et enfin, 15 000 visas pour les Afghans qui ont fui le pays en août dernier après la prise de pouvoir des talibans. Le gouvernement se félicite, mais pas l'opposition.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.